ma contribution se penche sur une spécifique des systèmes de symboles religieux et culturels de l'Orient ancien qui représente en tant que processus de communication humain la réalité dans sa totalité qui inclut aussi bien les dieux que les humains. Et je me concentre dans un contrepoint à Fabian Fitzmann, je me concentre premièrement au point de vue géographique et chronologique sur l'état d'Israël ancien. Je me concentre deuxièmement du point de vue de la sociologie des religions à la religion officielle que l'on peut distinguer des formes locales et familières. Finalement, comme le colloque s'intéresse aux représentations des dieux et des hommes, cela implique pour le culte officiel qu'il faut aborder concrètement la question des représentations de Yahvé. Il ne s'agit pas seulement d'images divines dans un sens large, c'est-à-dire de langage et métaphores verbales, mais plutôt d'images de Yahvé dans un sens restreint, c'est-à-dire de représentation matérielle de Yahvé. Dans cet horizon, la question figure entre l'existence indéniable d'images culturelles en Palestine durant l'âge de fer et la question d'une image de Yahvé au temple de Jérusalem qui est encore beaucoup plus difficile à résoudre. Dans ce qui suit, j'aimerais donc soulever la question des images de Yahvé dans le culte israélite en m'appuyant sur toutes les catégories de sources. Lorsque l'existence de telles images aurait été établie, elles feront l'objet d'un examen pour déterminer par un portrait approximatif quelle était leur fonction. Parce qu'on n'a pas déterré à ce jour, comme vous le savez, des statuts matériels pour le culte d'État israélite, ce sont les sources textuelles et iconographiques néo-assyriennes, de même que les témoignages bibliques qui nous offrent les indices les plus sûrs. Les inscriptions royales néo-assyriennes de la seconde moitié du 8e siècle relatent plusieurs fois pour le sud du Levant la déportation des dieux, c'est-à-dire d'images cultuelles, notamment en province de Gaza, Ashkelon et Ashdod, donc dans le voisinage immédiat d'Israël. Mais l'inscription la plus détaillée de Sargon II mentionne également de façon explicite une telle déportation de Samarie. The inhabitants of Samarina, 27,280 people, together with their chariots and the gods in whom they trusted, ça c'est le point décisif, and the gods in whom they trusted, as spoil I counted. Il est clair que Sargon caractérise l'élite de la nation déportée à l'aide de son équipement militaire et religieux de pointe. Donc, d'un point de vue néo-assyrien, les dieux importants pour la ville et l'État étaient déportés. Par contre, le texte n'indique pas quel genre d'images furent déportées. Des symboles aniconiques, des images thériomorphes ou anthropomorphes. Ce témoignage épigraphique trouve un appui dans certaines découvertes iconographiques, même si on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elles ont un lien direct avec Samarie. Une image instructive que nous connaissons maintenant déjà très bien est le célèbre bas-relief du palais central à Nimroud qui fait probablement, Christophe Hüllinger l'a discuté, référence à une campagne contre la ville philistine de Gaza et son roi Hanoun en 734. Des scènes comparables en ce qui concerne les représentations divines anthropomorphes, mais également les déportations des dieux sont aussi connues pour Ashkelon et pour d'autres villes. Il y a ici quelques exemples dont on ne connaît pas les yeux en tout cas. Ce sont seulement des illustrations pour le spectre iconographique. Finalement, je veux seulement indiquer à une autre scène fragmentaire qui notamment Christophe Hüllinger aussi a traité en plus de détails. En haut, vous voyez la reconstruction et en bas, l'original assez fragmentaire. Et c'est la raison pourquoi c'est très difficile à interpréter cette description. En tout, le témoignage des sources primaires établi en relatant la déportation d'images divines de Samarie, leur existence. Puis, nous pouvons ajouter les références bibliques, même si elles sont souvent teintées de polémique. Lorsqu'on examine les références bibliques au culte d'État d'Israël, tout d'abord, il est important de jeter un coup d'œil sur le célèbre passage Un roi 12 qui raconte comment Jéroboam jette les fondements à Bethel et à Dan d'un culte d'État propre, pour lequel des images divines doivent être fabriquées. C'est le célèbre vers que Fabian Fitzmann a déjà mentionné. Après le roi, Jéroboam le premier demanda conseil et il fit deux jeunes taureaux d'or, et il leur, ça veut dire au peuple, dit « Vous êtes montés assez longtemps à Jérusalem, voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter, voilà, dans le hifil du pays d'Égypte. » Et il monta à l'autel, voilà ce qu'il a fait à Bethel, sacrifiant aux jeunes taureaux qu'il avait fait. Le passage est reconnu comme ayant été considérablement retravaillé par une rédaction deutéronomiste. Toutefois, ou l'on pourrait même dire justement, cette polémique permet de discerner les contours de l'histoire de la religion au début de la royauté d'Israël, en particulier à l'égard du culte et des offrandes au Dieu Yahvé. Au Dieu Yahvé, symbolisé et représenté par des images de jeunes taureaux. À mon avis, ce qui est décisif pour la discussion, c'est la pragmatique du texte. Ici, c'est le deuxième point. La polémique deutéronomiste ne peut avoir un impact que si elle est substantiellement liée à des faits réels, au moins à l'époque de la fin de la royauté, et n'est donc pas entièrement inventée. Quelle que soit la définition précise du terme « égel », « jeune taureau », comme j'ai traduit, ou « petit veau », la pointe deutéronomiste ne fonctionne que en assumant un culte de Yahvé tauromorphe qui peut être caricaturé par les deutéronomistes. Par conséquent, nous pouvons déduire qu'au début de la royauté en Israël, avant ou pendant le règne des Omrites, un culte officiel d'État avec des offrandes a été établi pour le dieu principal Yahvé, qui se distinguait de l'Égypte, mais non de Jérusalem, dans un point de vue de l'histoire de la religion. Dans ce culte, Yahvé était adoré sous la forme stéréomorphe d'une image de taureau jeune symbolisant une force indomptable. les notices bibliques présentent également une situation comparable pour Samarie. Première, 1 roi 12, c'est à Bethel et à Dan. 1 roi 16 est décrit une situation comparable pour Samarie. Selon ce texte, Omri, le fondateur de la dynastie, fonda aussi Samarie comme capitale du royaume. Ensuite, son fils Achab y fit construire un temple. Et c'est Achab qui alla et servit Baal et se prosterna devant lui, et il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal. C'est en fait sans aucun doute le temple de Yahvé qu'il avait bâti à Samarie. Malgré la polémique d'autonomistes disqualifiés, Omri et Achab catégoriquement du point de vue historique et religieux, tout parle en faveur d'une congruence avec la situation à Bethel décrite ci haut. Cela est confirmé par un coup d'œil sur un troisième texte du prophète Osée, le jeune taureau de Samarie. Car Osée critique pareillement le culte officiel de nouveau de Samarie, qu'il décrit précisément comme celui à Bethel selon 1 roi 12. Il, ça veut dire Yahvé, a rejeté ton jeune taureau Samarie. Oui, en pièce sera mis le jeune taureau de Samarie. Le jeune taureau de Samarie fait clairement référence à une statue de Yahvé comme celle décrite en 1 roi 12. Osée critique aussi cette pratique comme étant erronée, comme 13.2 en témoignait d'une façon très expressive. On dit à l'heure aux asabim, aux idoles, on dit à leur sujet, ceux qui sacrifient des hommes ou ceux qui sacrifient aux hommes, c'est un accusatif ou un datif, ceux qui sacrifient des hommes embrassent les jeunes taureaux. Embrassent les jeunes taureaux. Osée reprend donc la distinction entre Yahvé et sa représentation matérielle en statue tauromorphe. Et il l'accente au point d'en faire un contraste. À cause du comportement fautif des hommes, Yahvé s'est distancié fondamentalement des images de taureaux et les a même rejetées, sans arc. Le culte n'a plus aucune prise sur Yahvé, selon Osée, mais dispose seulement de jeunes taureaux que l'on embrasse et à qui on fait des offrandes. Cette critique spécifique semble être une innovation du prophète, mais je peux seulement indiquer cette thèse. Nous pouvons donc conclure que la critique théologique d'Osée ne fonctionne, elle aussi, qu'en supposant un culte officiel bien établi où Yahvé était présent et pouvait être adoré sous la forme d'une statue de jeune taureau. Les sources présentées nous permettent maintenant de tracer un portrait plus ou moins précis du culte officiel d'Israël sous trois aspects. Où et quand ? Au niveau de la religion officielle d'Israël qui était liée étroitement au roi, il y avait des statues de Yahvé dans les villes d'importance. Pour la capitale Samarie, les témoignages convergents des inscriptions des textes bibliques et possiblement de l'iconographie rendent cette thèse irréfutable. Elle s'applique à l'époque de la fin de la royauté en Israël, quoique les sources bibliques semblent indiquer un établissement déjà sous les Omrites. Quant à Bethel, ce lieu a longue tradition culturelle où se trouvait un temple de Yahvé, il faut également y postuler l'existence d'une ou de plusieurs images cultuelles de Yahvé. Quoique les débuts de l'adoration de Yahvé demeure incertaine à cet endroit. L'inauguration biblique sous Jéroboam I ou Jéroboam le premier est une projection de la situation sous Jéroboam II qui qualifiait le royaume du nord ab ovo. C'est le point décisif de repositionner le texte de Jéroboam II à Jéroboam le premier. La qualification du royaume du nord ab ovo. Et c'est ça qui disqualifie dans la version deutéronomiste exactement la royauté d'Israël. Finalement, on peut supposer la même chose pour Dan et pour d'autres villes, même s'il nous manque des indications concrètes pour ces villes. Deuxième point, la forme. Les sources mentionnées indiquent tout d'abord qu'il y avait non seulement des représentations matérielles en iconique, mais aussi des images iconiques de Yahvé au niveau du culte officiel. Néanmoins, les sources divergent sur la question de savoir s'il s'agissait d'une représentation anthropomorphe ou thériomorphe de Yahvé. Alors que l'iconographie représente clairement des divinités anthropomorphes, quoique sans référence explicite à Samarie ou à une autre ville israélite, la référence au dieu de Samarie dans l'inscription de Sargon II permet les deux interprétations, thériomorphe ou anthropomorphe. De leur côté, les textes bibliques mentionnent l'usage de statues de taureaux dans le culte officiel de Yahvé, ce qui s'intègre bien au point de vue de l'histoire des religions dans l'horizon élargi des représentations de taureaux de l'âge de bronze final et du début de l'âge de fer. L'interprétation la plus prudente, à mon avis, est la supposition de Christian Frevel selon laquelle Yahvé était représenté par des images de taureaux à Bethel, Dan, Samarie et ailleurs, et adoré dans le cadre du culte officiel avec ces mêmes images, ce qui est compatible avec toutes les indications que nous avons tirées des sources. Mais il ne faut pas postuler une exclusivité, je pense. La supposition secondaire, selon laquelle il y avait également des statues anthropomorphes de Yahvé à Samarie et possiblement en d'autres temples, est également plausible. Il est évident, remarquable, que les textes bibliques passent sous silence l'existence de telles statues quand on considère le potentiel polémique qu'elles renferment. Cependant, à mon avis, il est tout à fait probable qu'il y avait une complémentarité de représentations aniconiques, thériomorphes et anthropomorphes. Et on peut ajouter cosmomorphes et sociomorphes, etc. À cet égard, il faut aussi mentionner les nombreux anthropomorphismes dans le langage employé au sujet de Yahvé. Ainsi, l'étiologie du culte de Bethel en Genèse 28 explique l'édification d'une stèle aniconique, je dirais, une stèle aniconique qui sert d'alternatif à l'image de taureau mentionnée en 1 Roi 12. Les indices bibliques et l'iconographique nous permettent de supposer quelque chose de semblable pour les représentations toromorphes et anthropomorphes de Yahvé dans le culte officiel à Samarie, même si cela ne peut être démontré directement. On peut ensuite distinguer, et il faut ensuite distinguer entre les formes de représentation par rapport à leurs caractéristiques spécifiques, leur expressivité et leur potentiel d'utilisation. Cela permet aussi de mieux les situer en point de vue de la sociologie et la géographie religieuse. Sans oublier les iconographies de Yahvé en concurrence. Ça, c'est l'autre côté. Troisième et dernier point de l'interprétation, fonction et signification. La fonction constitutive de l'image cultuelle thériomorphe est de rendre présente la divinité. La notion d'une présence divine concrète et agissant avec puissance est évidemment essentielle pour le fonctionnement de toutes les pratiques cultuelles, et on y trouve une expression et on trouve une expression dans l'appel cultuel « Voici tes dieux Israël ». La seule autre tache de l'image cultuelle dont les textes bibliques donnent un écho, déformée par la polémique, est de recevoir des offrandes. 1 Roi 12 et Osée 13. Pour d'autres fonctions, par exemple en rapport avec la dynastie royale ou avec l'ordre mondial, etc., nous ne disposons pas d'indices suffisants. Les images cultuelles thériomorphes, en contraste avec les représentations aniconiques, mettent une façon analogue aux représentations anthropomorphes, mettent l'emphase sur les qualités et les compétences importantes et caractéristiques de la divinité. Celle-ci est donc représentée d'une façon aspective. La réalité divine est concrétisée d'une manière spécifique. À cet égard, il faut approfondir la sémantique du taureau et son lien avec la thématique de l'Exode. Pour ce qui est de la sémantique, les sources, surtout iconographiques, mais également textuelles au Levant, témoignent d'une symbolique dominante, de la puissance et de la force pour les motifs de taureau, alors que la fertilité, qui est exprimée avec d'autres motifs, reste marginale. Ces sculptures ont typiquement des épaules prononcées, comme le montre le célèbre exemplaire du bullseye. Cela exprime la puissance et la force déjà mentionnées, comme le contexte iconographique le montre clairement, spécialement selon les études les plus détaillées. Finalement, cette symbolique a des affinités avec d'autres conceptions dans l'histoire des traditions et de la théologie. D'une part, Klaus Koenen a remarqué que cette symbolique de puissance et de force s'harmonise bien avec le Dieu originel d'Israël, El, le combattant et le régnant, qui a de toute évidence joué un rôle déterminant dans le processus de formation sociale et religieuse et politique d'Israël, et qui était déjà auparavant lié étroitement au motif du taureau au point de vue iconographique. D'autre part, la thématique de l'Exode, telle qu'on la trouve dans les textes bibliques, en particulier en 1 Roi 12, s'intègre bien dans ce contexte, car elle est liée explicitement au jeune taureau représentant Yahvé. Si ceux-ci ont fait sortir Israël du pays d'Égypte. La tradition de l'Exode présente Israël comme ayant été libéré par Yahvé, du contrôle étranger du pays d'Égypte. Ainsi, la symbolique du taureau, qui signifie traditionnellement la force et la puissance, également politique, reçoit un sens spécifiquement israélite, car elle est associée au mythe fondateur d'Israël. Il est à noter que l'accent est mis sur l'affranchissement de la suprématie politique d'Égypte, alors que l'émancipation tout aussi dramatique de Jérusalem en 1 roi 12, que l'on doit sans doute attribuer à la perspective deutéronomiste, est totalement ignorée. Dans l'ensemble, la puissance et la force du jeune taureau est donc associée à Yahvé et interprétée comme symbolisant la mise en œuvre du pouvoir de Yahvé pour libérer de l'Égypte et donner un fondement à l'État israélite. Ce qui fait de Yahvé, en forme de jeune taureau, le Dieu d'État Israël. Je vous remercie pour votre patience et attention.